Épisode 106 avec Élodie Ronco. Bienvenue dans la saison 4 de mon podcast. Moi, c'est Anouk, je suis professeure de yoga, une aventurière, et mon terrain d'exploration favori, c'est le monde intérieur. Je pense que, comme l'océan, c'est un univers riche et complexe. Dans ce podcast, que j'appelle aussi mon journal de bord, tu trouveras tous les mardis, dès 7h du matin, un nouvel épisode de moi ou de mes invités pour apprendre à mieux naviguer sur l'océan de ta vie, c'est-à-dire à rayonner dans tous les domaines et vivre ta meilleure vie. Pour recevoir plus d'informations et de partages, rendez-vous sur mon site internet anoukcoroller.com et inscris-toi à ma newsletter. Bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'interviewe Élodie Ronco, qui est professeure de yoga, sexothérapeute. Elle est également fondatrice et directrice du studio de yoga Element, qui est à Argenton-sur-Creuse, qui est un petit village dans le département de l'Indre, un studio qui a l'air d'ailleurs extraordinaire. Mais elle est également co-créatrice du podcast Culture, qui est un podcast qui parle de sexualité. Elle est aussi maman d'une petite fille, et c'est une femme que j'adore et que je connais depuis un moment. Sur le podcast, nous parlons de sexualité. Et c'est une thématique que j'avais vraiment envie d'aborder, puisqu'il y a tellement de tabous et de non-dits autour de cette thématique-là, tellement de croyances limitantes. Et vous verrez que la conversation que nous avons avec Élodie nous permet vraiment de mettre en lumière celle-ci. Étant elle-même sexothérapeute, Élodie nous donne des astuces, des pistes et des nouvelles perspectives pour nous épanouir dans notre sexualité et rallumer la flamme du désir. Que vous soyez célibataire, hétéro, homo, bi, queer, je pense sincèrement que vous trouverez dans cet épisode des pépites pour vous libérer davantage et vivre une sexualité encore plus épanouie. Vous retrouverez toutes les ressources mentionnées dans la fenêtre de l'épisode et également comment contacter Élodie ou venir dans son studio de yoga. Et si l'épisode vous a plu, si le podcast vous plaît, alors n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify et un commentaire écrit si l'application le permet. Je vous laisse sans plus tarder avec cet épisode richissime et je vous retrouve de l'autre côté. I'm so excited!
Je suis trop contente, entre la joie, j'ai envie de faire l'andouille, tu sais, et l'espèce de sérieux, il va quand même falloir se concentrer parce que sinon ça va partir dans tous les sens.
Parce que les gens ne savent pas qu'on se connaît depuis un très long moment, vu qu'on était en primaire ensemble.
Ouais.
Et aujourd'hui, on va avoir une conversation à propos de la sexualité pour mon podcast. Je suis trop contente.
C'est vrai que dit comme ça, ça fait un sacré... Moi, je me souviens des billes dans la cour de récré, quoi.
C'est trop cool. Je me souviens aussi... Non, si, on était potes quand même. On était potes, mais on était un petit peu genre...
Oui, je pense qu'on ne s'est jamais... On n'a jamais eu la possibilité de connecter, mais il n'y a jamais eu... Enfin, tu vois, moi, t'es toujours quelqu'un que j'ai suivi de loin, que j'admirais beaucoup, tout le temps. Enfin, tu vois, je suivais tes aventures. Donc, je pense que c'est juste on n'a pas eu l'occasion de connecter, en fait.
Ouais. Et il y a quelques années, tu t'es embarquée dans ce chemin-là, et dans le chemin du yoga, du développement personnel, de la spiritualité.
Ouais.
T'as monté maintenant ton studio. Alors, pour les gens qui nous écoutent, déjà, est-ce que tu peux nous dire quelques mots de toi, de qui tu es et ce que tu fais?
Ok. Ben, moi, je m'appelle Élodie. Et du coup, j'ai plusieurs casquettes. Je pense que c'est quelque chose qui me caractérise dans ma vie en général. Après, tout tourne quand même autour du corps et de son rapport à son corps, puisque moi, j'ai commencé ma vie professionnelle en étant massothérapeute. Donc, il y avait quand même ce toucher-là. Puis, suite à des événements de vie, j'ai eu envie de me reconvertir. Ça faisait déjà quelques années que je pratiquais le yoga pour moi. Et du coup, j'ai suivi une formation pour devenir prof de yoga. J'ai, dans la foulée, ouvert mon studio. Et entre ça, j'ai repris des études pour devenir sophrologue, pour avoir un équivalent de bac plus 2 pour pouvoir accéder à une formation de sexologue clinicienne. Donc, le chemin s'est fait sur quelques années. Et en fait, donc je fais un petit peu tout ça. Je travaille beaucoup au studio et dans mon cabinet, mais je travaille aussi dans un hôpital psychiatrique où je donne des cours et de yoga et où je travaille en sophro. Et en fait, mon fil d'Ariane pour tout ça, c'est le corps. Le corps, reconnecter à son corps, faire en sorte que tu n'aies pas juste l'impression d'être là par hasard, mais que tu comprennes que tu habites quelque part et puis que ce quelque part, c'est ton corps et que les deux marchent ensemble. Et le yoga marche ultra bien pour ça, la sophro aussi, et au final, la sexo est apparue comme une évidence parce qu'on met ce truc-là vachement de côté, alors que c'est un truc central de notre vie, quoi.
Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie personnelle qui a fait que tu as eu envie de toi revenir à ton corps? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose et c'est à partir de là que tu as eu envie de partager? Ou est-ce que c'est venu assez de manière plus dégradée sur le long terme?
Alors moi, depuis, tu sais, passé pour... Ça va qu'on est sur ton podcast, mais depuis petite, j'ai un rapport à mon corps qui est assez fou. Tu vois, je pense qu'on me considérait vachement comme une petite fille qui était douillette, qui s'écoutait beaucoup. Mais en fait, je pense parce que depuis tout le temps, je suis très connectée à mon corps et j'arrivais assez facilement, tu sais, à manipuler mon esprit en étant enfant, tu vois, à sortir de mon corps, à me regarder au-dessus. Alors, est-ce que c'est dans mon imagination? Est-ce que ça ne l'est pas? Au final, je m'en fiche aujourd'hui, mais ça m'a vraiment permis de comprendre assez tôt qu'on n'était pas que de bras, de jambes, une tête et tout ça. Donc, ça m'a intéressée très, très vite. Puis, mon parcours professionnel a fait que le toucher a toujours été là, le corps, tout ça, tout ça. Mais dans le monde du luxe, donc tu es quand même coupé de quelque chose d'essentiel pour moi aujourd'hui qui est la spiritualité. Et la spiritualité, elle est arrivée pour moi dans un événement de vie assez violent puisque j'ai perdu ma première fille à la naissance et que ça a été la porte d'entrée à me dire non, en fait, j'ai pas envie de continuer dans un monde très superficiel. J'ai envie de me reconnecter à mon corps après ça, parce que ton corps, quand tu vis quelque chose comme ça, t'es très médicalisé, ça t'appartient plus vraiment. Donc, j'avais vraiment ce besoin-là et de changer en plus de monde professionnel et de me reconnecter un petit peu plus à ma spiritualité. Donc, j'ai envie de te répondre à ta question. Ça a été les deux. Il y a toujours eu ça, mais il y a aussi eu un truc assez... violent qui m'a dit « Allez, go, c'est maintenant, quoi.
» Et la sexothérapie, est-ce que tu entendais, par exemple, des récits de tes amis qui ne s'épanouissaient pas dans leur sexualité, tu avais envie de les aider, ou est-ce que tu avais l'impression d'ouvrir des portes que tu avais envie de partager? Comment est-ce que vraiment tu as choisi cette voie-là qui n'est pas... Bon, qui commence à être de plus en plus popularisée, mais... Quand tu as commencé il y a quelques années, je pense que ce n'était pas non plus quelque chose de très commun. Puis c'est une branche assez spéciale en soi. Donc, comment est-ce que ça s'est arrivé?
Je pense que c'est pareil. Ça s'est fait petit à petit. La porte d'entrée, ça a été la périnatalité. Tu vois, vraiment, après mon accouchement, là je parle pour moi, j'ai découvert mon corps, j'ai découvert ma sexualité. Alors certes, j'ai mis du temps à être OK avec mon corps après ça, mais et moi, ça a été un peu la révélation. Je me suis vraiment découvert dans ma sexualité. C'est toujours quelque chose qui m'a hyper intéressée. Tu vois, j'étais curieuse. Et puis bon, ça, c'est pas un secret. Moi, je suis assez curieuse là-dedans. J'aime autant la sexualité avec les filles qu'avec les garçons. C'est toujours quelque chose où j'ai été hyper, hyper curieuse. Et le fait est que d'être une femme, même si c'était il y a une quinzaine d'années, c'était voilà, tu étais encore considérée comme une salope quand tu explorais un peu trop ta sexualité. Donc j'ai mis ça de côté et après mon accouchement, j'ai redécouvert ça et ça a été mais en fait, on connaît pas la moitié de ce à quoi on a accès. Donc j'ai commencé à me renseigner et puis en fait, je pense que ça vient petit à petit où quand tu commences à en parler toi, ça libère aussi les autres et au final, les gens viennent te parler de leur sexualité. Et puis, tu vois, ça s'est pareil, hyper naturellement, en fait, ça s'est mis en place.
Et je me souviens très bien un des moments sur la retraite magnétique auquel tu as participé, dans laquelle tu as ouvert cette conversation sur la sexualité. Et je me souviens que ça a été vraiment un temps fort de la retraite où ça nous a permis de toutes nous libérer autour de cette thématique qui peut être, qui est assez tabou en soi encore. Donc, c'est aussi pour ça que j'avais envie de t'avoir sur le podcast. Moi, ce n'est pas une thématique forcément que j'ai explorée dans le podcast, donc qui est assez même intimidante pour moi. Je suis là, je n'ai pas envie d'en dire trop, mais en même temps, on est là pour ça. Donc, je suis assez ravie que ce soit moi qui pose des questions. Et que, bon, voilà, ça restera dans le cadre de notre échange aussi.
Je comprends.
Donc, déjà, je pense... Enfin, pour entrer dans ce sujet et à la fois garder quelque chose d'assez large, est-ce que tu peux répondre à la question, qu'est-ce que c'est en fait une sexualité épanouie ?
C'est tellement différent pour tout le monde. Déjà, je pense que c'est la première chose à prendre en compte. Une sexualité épanouie, pour moi, c'est une sexualité qui nous convient. C'est-à-dire en dehors de la moyenne des Français et de faire l'amour 3 fois par semaine. Et que si toi, tu n'as pas envie de faire l'amour 3 fois par semaine, bah, tu n'as pas une sexualité épanouie. Ça veut dire que peut-être que toi, tu as envie de faire l'amour 1 fois par mois et que ça te va très, très bien. Ça, c'est une sexualité épanouie. Peut-être que tu n'as aucune envie de pénétration, mais que pour toi, tu prends un plaisir fou. Ça, c'est une sexualité épanouie. En fait, c'est, je pense, c'est... se dire que autant qu'il y a de goût, il y a de sexualité. C'est-à-dire que tu as des personnes qui aiment le fromage, d'autres non. Bah, tu as des personnes qui vont aimer la fellation, d'autres non. Enfin voilà, c'est tellement différent pour chacun. Donc pour moi, une sexualité épanouie, c'est sortir du carcan. On a des préliminaires, on a une pénétration, que ce soit pour un rapport... hétérosexuel ou homosexuel, voilà, qui est quelque chose qui nous corresponde, qu'on ait notre propre style de sexualité. C'est ça pour moi qui définit une sexualité épanouie.
Et dans quelle mesure est-ce que c'est important ? Est-ce qu'on peut ne pas avoir de sexualité, entre guillemets, ne pas cultiver ça ? Est-ce que c'est important, vital ? Qu'est-ce qu'on loupe si on n'a pas de sexualité ? Qu'est-ce que... Enfin, tu vois ?
Bah, ça va dépendre, c'est encore une fois, ça dépend de ta personnalité. Sur les besoins, tu sais, si on prend la pyramide des besoins de Maslow, je crois, si je ne dis pas de bêtises, tu as les besoins vitaux qui sont boire, manger, dormir. Voilà. La sexualité n'est pas un besoin vital. Tu ne vas pas mourir si tu n'as pas de sexualité, mais c'est un besoin qui est quand même très très haut parce que nous les humains on est des êtres sociaux, on a besoin d'interaction et la sexualité va aussi générer des hormones, donc entre autres l'ocytocine qui est l'hormone du plaisir, ça va libérer de l'hormone du bonheur, ça crée aussi du lien dans le couple au niveau hormonal. Donc, il ne va rien nous arriver de mal si on n'a pas de sexualité. C'est juste quelque chose que si on en a, on en ressent le besoin, pouvoir le vivre, c'est important. A contrario, tu as des gens qui n'en ont pas besoin. Tu vois, les personnes qui sont asexuelles, elles ne ressentent pas de désir, en fait. Donc, à partir de ce moment-là, ça ne leur change pas leur vie, étant donné que ce n'est pas un besoin qui est vital.
Oui, c'est vraiment... Il y a de tout et il ne faut pas se juger, juste apprendre à être à l'écoute de soi. Et...
C'est ça. Puis je pense que, tu vois, toutes les deux, on est des femmes. Toutes les deux, on est réglées par des cycles. On voit bien qu'en fin de cycle, on a quand même relativement, en général, moins envie qu'en période d'ovulation. Donc, il y a aussi, il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu sur notre libido, sur notre désir, sur la manière dont on est excité. Ça dépend de notre cycle, ça dépend du moment de l'année. Par exemple, on peut être vachement plus open et avoir beaucoup plus envie de sexualité l'été. Le fait de voir des corps un petit peu plus dénudés. Enfin, voilà, tu vois, tu as plein de paramètres qui rentrent en jeu. Donc, il ne va rien vous arriver si vous n'avez pas de sexualité, mais si vous en avez envie et besoin, c'est important de le vivre bien.
Et dans un couple, parce que je pense qu'il y a, il y a pas mal de questions qui peuvent aller autour du couple. Est-ce que voilà, on a besoin de faire l'amour? Qu'est-ce que ça nous apporte quand même dans un couple? Moi, j'ai l'impression que ça lie un couple. Le fait d'avoir une sexualité, est-ce que tu penses que c'est quand même important? Ou là encore, tu dirais ben, les goûts et les couleurs?
Les goûts et les couleurs, oui, sauf que là, dans l'équation, t'es deux. Et là, ça change vachement la donne parce que quand il y en a un qui a envie, peut-être pas l'autre. Enfin, voilà. Donc, t'es deux. Donc, c'est quand même plus un petit travail d'équipe de se faire des petits checks de comment ça se passe pour nous. Parce que tu peux avoir vraiment des grosses différences qui vont venir poser des soucis au couple. Si tu as quelqu'un dans le couple qui a plus, beaucoup plus de libido que l'autre, ça peut vraiment venir poser un souci. Mais après... Je veux dire, dans un couple, tu peux avoir une sexualité hyper épanouie, être hyper heureux et faire l'amour une fois par mois. Comme tu peux avoir des couples qui sont plus bien ensemble, qui sont pas forcément heureux et qui font l'amour 3-4 fois par semaine. Donc en fait, moi, ce que j'essaye de dire aux couples qui viennent au cabinet, c'est privilégier la qualité du rapport sexuel plutôt que la quantité. Il n'y a pas vraiment de nombre de fois idéal de faire l'amour, c'est comment vous faites l'amour. Et quand tu dis « j'ai l'impression que ça lie un couple », oui, ça c'est l'ocytocine qui est créée quand quand tu as un rapport sexuel, qui est l'hormone aussi de l'attachement. Tu vois, c'est ce qui va se générer chez les mamans qui allaitent, par exemple. Donc, tu as ce lien d'attachement avec l'ocytocine qui se fait, mais qui peut se faire autrement, qui peut se faire par le massage, qui peut se faire par le toucher, qui peut se faire par plein d'autres manières, qui fait que si tu n'as pas une sexualité hyper active dans ton couple, tu peux quand même être super heureux, pas du tout en manque. Ça peut faire partie d'eux, mais il y a certains couples qui sont très confortables dans le fait de faire l'amour une fois par mois. Je pense qu'on est plus dans le fait de, on nous a inculqué, et ça j'en parlais avec une amie, où tu vois, on se disait, en fait, j'avais pas forcément envie de faire l'amour quand j'étais en couple, mais je le faisais parce que je me sentais obligée de le faire. Je sais pas si toi, t'as déjà eu ce truc-là, de se dire, bon, là ça fait 2-3 jours, une semaine, il va falloir le faire, alors que putain, t'as pas forcément envie, tu vois, tu te dis juste je vais le faire pour l'autre parce que c'est normal, et ça en fait c'est ça devrait pas être ok, ça devrait pas être un truc où on se dit faut faire l'amour tous les 3 jours parce que sinon ça va pas le faire. Faut discuter avec sa partenaire, voir si on peut pas faire autrement, si l'autre a vraiment besoin, comment lui peut ou elle peut trouver un moyen de se, se satisfaire. C'est là où la masturbation doit être aussi un sujet dans le couple, parce que ça permet aussi de réguler ces trucs de quand toi, tu n'as pas envie, bah ok, moi, je peux m'occuper de moi et puis peut-être découvrir d'autres trucs, puis le partager avec toi après. Ça peut être vécu de plein de façons, en fait.
Ouais, c'est vraiment aussi, je pense, enfin, ce que tu as dit, c'est pas forcément faire l'amour, mais c'est d'avoir de l'intimité, du massage, créer ce lien quand même qui passe un petit peu par le toucher, la tendresse, l'affection. Et j'ai vraiment aimé ce que tu as dit par rapport à la quantité versus la qualité, parce que je pense que c'est facile de faire l'amour avec son partenaire et en fait d'être pas vraiment présente et d'être un peu là à penser aux courses ou à autre chose et au lieu de
la
se dire
la machine à laver, est-ce que je l'ai sortie?
Tu pars. Au lieu de vraiment créer ce quality time et d'être vraiment présente et par rapport à ce que tu dis sur ouais, j'avais pas vraiment envie, mais en fait, je l'ai fait parce que voilà, ça faisait déjà 4 jours et bon, il faut le faire. Je me demande si, c'est juste une question, hein, parce que vraiment, je sais pas, mais si d'une certaine façon, de se dire, bon, pour créer un petit peu cette régularité, je sais pas, hein, on se dit, mais qu'on a à peu près l'amour, on fait à peu près l'amour une fois par semaine. De quand même se donner un petit peu ce truc. Alors après, ça passe sûrement par la communication avec notre partenaire, mais parce que sinon, c'est « ah bah j'ai la flemme
bah ». C'est pour ça que je comprends exactement où tu veux en venir.
Oui. Est-ce qu'il ne faut pas se mettre un petit peu ce truc de « allez, on y va, on fait un peu l'effort », parce qu'en fait, après, quand on le fait, c'est génial et on est trop content. Mais faux, tu vois.
Mais en fait, c'est pas « je suis vraiment d'accord avec toi », mais il ne faut pas que ce soit engendré par « on va avoir un rapport sexuel et après je vais trouver ça génial ». Ça va être le moteur, c'est « on va passer un moment ensemble et peut-être qu'il y aura un rapport sexuel et ça sera génial ». Mais c'est plus prendre véritablement du temps ensemble. Et si, on ne va pas se mentir, tu prépares un temps avec ton ou ta chérie nu à te faire des massages, il y a quand même beaucoup de chances que, option numéro 1, tu t'endormes. Option numéro 2, qui est plus souvent le truc, ça se termine en câlin. Mais en fait, c'est ne pas se mettre la pression. Arrêter avec ce truc de « je vais être obligée de faire l'amour, je me sens obligée, ça fait 4 jours ». Non, on va se prendre un temps de qualité. Et si ça débouche sur ça, bah trop cool. Mais pas un truc de se dire « il va falloir faire l'amour ». Et ça, je trouve que c'est hyper important parce que ça peut mettre une telle pression de se dire « oh là là, je vais être obligée de faire l'amour ». Non, le truc important, c'est prendre un temps de qualité ensemble. Et puis ça peut être un temps hyper coquin. Tu vois ce que je veux dire?
Ça non, être... dis-moi.
Ça peut être un temps hyper coquin où, je sais pas, tu peux faire un petit...
Allez, go, Elodie.
Non, mais parce que moi, j'ai toujours plein d'idées là-dessus, mais tu vois, ça doit être du temps fun de se créer du temps pour sa sexualité et pas forcément pour un rapport sexuel. Pour moi, il y a une vraie différence. Tu vois, bon là je vous parle un peu de mon truc à moi, mais je me souviens d'une fois où j'avais fait, donc à mon chéri qui habitait loin, j'avais collé un petit post-it sur la porte en disant « voilà, t'as pas le droit de parler, rentre dans la maison, puis tu cherches l'autre post-it ». Puis il avait des petites missions tout au long du post-it qui incluaient aller se prendre une douche, se prendre un petit temps pour lui, tout ça. Et puis après qu'on ait un temps tous les deux, mais il n'y avait pas une attente particulière. Mais tu vois, tu crées une excitation, tu crées un moment. En fait, c'est comme tout dans la vie, ça devrait être fun. Pas un moment où tu te dis... Oh, ça fait 4 jours, allez, je vais motiver un petit peu, puis après, ça va bien, tu vois. Oui, c'est important de se dire à un moment donné, il faut qu'on crée de l'intimité, mais pas qu'on crée un rapport sexuel. Et j'espère que je suis claire quand je dis ça, parce que pour moi, c'est vraiment deux choses hyper différentes. Et ça va être là où tu as la quantité slash la qualité, où tu peux avoir plein de plaisir et pas forcément arriver à une pénétration. Voilà, tu peux t'éclater autrement et tu crées quand même du lien avec ton partenaire.
C'est génial. J'adore. Super clair. Quand tu le disais, je me disais, c'est vraiment aussi... Enfin, c'est une logique de pensée qui est importante à garder dans notre vie, au lieu à chaque fois de se dire « il faut que ». C'est en fait, pourquoi j'ai envie de faire ça et qu'est-ce que ça m'apporte et comment est-ce que ça peut être fun. En plus, le mot « fun », pour moi, il est tellement important. Donc,
C'est ça, pour le coup, c'est un moment de vie tellement intime. Enfin, je veux dire, tu te donnes... Et c'est là où le yoga et la spiritualité, pour moi... rentre en compte à fond, c'est se rendre compte aussi que tu partages quelque chose d'énergétique hyper fort avec la personne avec qui tu as une relation sexuelle. On s'en fout que ce soit une relation sexuelle d'un soir, d'une heure, de 10 ans. C'est pas le principe d'avoir le même partenaire ou la même partenaire pendant des années. C'est être véritablement dans le moment quand tu le vis, au même titre que tu fais du yoga, au même titre, toi, tu vois, je sais que tu aimes beaucoup prendre des temps pour manger en conscience, dans le silence. Bah, c'est la même chose, en fait. Quand tu fais l'amour avec quelqu'un, d'être là avec lui et que l'autre personne soit là avec toi. C'est plus ça qui est importante. Tu peux faire l'amour 4 fois par semaine si tu penses à la liste des courses et à ta machine à laver. Énergétiquement, il n'y a que dalle qui se passe, tu vois. C'est physique, c'est du frottement de corps. Donc oui, tu as un petit peu le côté hormonal qui se crée. Et c'est pour ça que tu as des couples qui vont vraiment pas bien. Et parce qu'ils ont des relations sexuelles, continue dans le temps pendant très longtemps parce que tu as ce truc un peu mécanique, hormonal, qui crée toujours du lien. Et pour autant, ça va pas bien.
Tu as parlé de ce truc de... Et moi, tu as dit, il faut créer ce désir, il faut créer cette excitation avec l'exemple que tu as donné des petits post-it que tu laissais pour ton partenaire. Alors justement, je me demande pour un couple qui est ensemble depuis de nombreuses années, on parle un peu justement d'alimenter cette flamme de la passion, cette flamme du désir. Est-ce que tu as des recommandations ou des idées pour faire ça pour un couple qui est ensemble depuis longtemps et qui a envie de cultiver ça?
Oui, bah après, c'est on a tous vécu, à un moment donné, ce truc de... Au début, c'est le feu absolu. Je veux dire, l'autre te touche le lobe de l'oreille et ça y est, tu es ready, allez-y, pas besoin de plus. Sauf que, en fait, dans la sexualité, ce qui crée le désir, parce qu'en fait, la libido, elle est créée par rapport à notre imaginaire. Donc, plus on a de l'imagination, plus on est en capacité de fantasmer, plus on a une sexualité qui nous convient. Enfin, j'arrive pas à trouver mon mot, mais qui est cool en tout cas. Donc, au bout de 10 ans, il se peut que l'excitation de se toucher le lobe d'oreille n'existe plus et c'est normal parce que c'est plus nouveau. Au bout de la 50e fois où on t'a touché le lobe de l'oreille, tu sais ce que ça fait, tu sais comment t'es touché. Donc en fait, ça crée plus physiquement la même chose. Donc là, le renouvellement, il est important dans le sens où c'est créer de la nouveauté et des nouveaux fantasmes qui vont faire que t'as toujours envie de l'autre. Donc ça peut passer par plein de choses. Ça peut passer par du jeu, ça peut passer par tester des nouvelles choses, que ce soit seul, que ce soit à deux. Pour certains couples, ça va être ouvrir leur couple, par exemple, tu vois. C'est pas fait pour tous les couples, mais il y a certains couples qui ont besoin de ça, de savoir que l'autre est désiré par quelqu'un d'autre ou accueillir quelqu'un d'autre dans sa sexualité de couple. Il y a 1 milliard de façons de créer de la nouveauté. mais c'est important de créer de la nouveauté pour garder le désir. Et ça, c'est comme un petit peu une solution mathématique. Parce qu'on est humain, parce qu'on a toujours besoin d'être stimulé, parce que on est excité, c'est pour ça qu'on aime autant les débuts de relations où on a les papillons dans le ventre, parce que tout est nouveau, en fait. Donc, c'est juste créer de la nouveauté dans son couple, c'est ce qui fait que tu vas continuer à désirer l'autre. Après, t'as plein... Là, moi, je te parle de la sexualité, hein. T'as plein d'autres choses qui rentrent en compte, mais il me semble quand même que si tu prends le temps de créer de la nouveauté pour l'autre, que l'autre fait la même chose, que tu as une sexualité épanouie, forcément, tu as le lien amoureux qui se renforce, quoi. En tout cas, c'est mon idée à moi.
Ouais, je trouve ça super. Et si je peux faire un petit partage personnel aussi.
Vas-y, go.
J'en ferai pas beaucoup dans cette conversation parce que c'est assez intimidant pour moi. Mais quelque chose qui marche bien, c'est les animaux totémiques. En fait, de savoir ton animal totémique et l'animal totémique de ton partenaire, bah en fait, ça te permet de te mettre dans la peau d'un animal et du coup d'instaurer ce jeu d'être deux animaux, en plus qu'on incarne, mais de vraiment jouer avec ces dimensions, c'est fantastique. Et pour moi, je sais que ça a apporté mes relations intimes à un niveau... mystique presque.
Ben c'est trop cool, mais c'est ouais. Ça en fait qui est, tu vois, et là c'est vraiment, on fait le lien sur t'as relié ta sexualité à ton esprit, à ton corps. Et en fait c'est exactement comme le yoga, une fois qu'on a compris ça, que tout marche ensemble, mais que en plus là tu inclus quelqu'un d'autre avec toi. Donc, je trouve ça. Et puis, là, l'histoire des animaux totémiques, ça a un aspect très ludique, en plus d'avoir un aspect hyper énergétique, en plus d'avoir... Donc, enfin, je veux dire, tu t'y retrouves carrément, tu as trouvé ta manière de faire fonctionner ça. C'est trop génial. Mmh. Et en fait, ça met le doigt là-dessus de trouver votre manière de faire l'amour, quoi. Mmh. Éclatez-vous. Trouver, parfois tu testes des trucs, puis tu te dis ça c'était nul, tout le monde se met à rire, t'es tout nu, tu te dis ça n'a pas marché, mais c'est pas grave, t'as essayé, tu vois.
C'est clair.
Et je trouve ça trop beau que toi t'aies trouvé en tout cas ta manière de t'exprimer là-dedans et c'est trop chouette de nous l'avoir partagé.
Ouais. Si ça peut donner des idées. Et puis,
Lyon.
À quel point est-ce que, justement, dans ce contexte, la communication est importante? Et par exemple, s'il y a un truc qu'on ne kiffe pas, parfois, c'est difficile de le dire à notre partenaire.
Ouais.
Et quelles sont tes recommandations pour communiquer de manière bienveillante? Parce que je pense que quand même la communication, tu en as déjà un peu parlé, mais c'est la base de cet acte-là. Et ça vient mettre en lumière justement nos problèmes de communication aussi. Je pense que les problèmes de communication qu'on a dans notre vie habituelle, où on n'arrive pas à mettre ses limites, où on n'arrive pas à exprimer notre vérité, ils vont être magnétisés au lit. Donc, comment est-ce que dans ce contexte-là, qui est un contexte sensible, parce qu'on parle de choses aussi qui sont sensibles, on peut communiquer à notre partenaire.
Je pense que c'est quelque chose, enfin que je conseille en tout cas, d'initier dès le début, si c'est possible, en tout cas dès le début d'un couple, parce que ça va générer tout le reste de la sexualité en fait. Et quand ça fait longtemps qu'on est ensemble, c'est plus difficile, c'est possible, attention, mais c'est juste que c'est plus difficile parce qu'en plus, on se dit, oh, j'ai rien dit pendant 10 ans que ça ne me plaisait pas, donc j'ai trop peur de lui faire du mal. Parce que lui, ça fait 10 ans, ou elle, ça fait 10 ans qu'elle me fait ça, en pensant que je kiffe, alors que pas du tout. Et que je fais semblant de kiffer, alors ça peut être hyper violent pour l'autre de dire en fait, ce que tu me fais là, c'est pas, ça me plaît pas forcément. Donc, c'est là où, je vais commencer par le début, la masturbation pour moi est la base de tout, de tout, de tout. Connaissez-vous, connaissez votre corps, comprenez comment vous fonctionnez pour pouvoir le dire à l'autre. Si déjà vous savez comment vous actionnez votre plaisir, votre orgasme, tout ça, vous allez être en mesure de le partager avec l'autre. Avoir une manière de discuter, je pense que c'est propre à chaque couple. Tu as utilisé le mot de la communication bienveillante. Là-dedans, je pense qu'il n'y a pas de secret. Ça va être du plus, plus, plus. Ne pas utiliser de « tu fais pas ci, tu fais pas ça ». Là, on parle de sexualité, qui est la chose la plus intime. Éviter au maximum de pointer l'autre dans quelque chose qui ne fait pas bien. Mais au contraire, exprimer davantage encore ses besoins. J'ai besoin que tu sois peut-être un tout petit peu plus doux. J'ai besoin d'un peu plus de temps pour me mettre dans le rapport sexuel. J'ai besoin que tu m'embrasses un peu plus. Enfin, tu vois, exprimer ses propres besoins et pas dire à l'autre ce qui ne fait pas bien. Parce qu'en fait, pour moi, il n'y a pas de choses qu'on ne fait pas bien dans la sexualité. On a juste pas le mode d'emploi de l'autre. Donc, à partir du moment où on donne notre mode d'emploi, bah voilà, ça se travaille, ça se transforme. Mais je veux dire, si l'autre personne ne trouve pas, je parle, voilà, un homme qui fait l'amour à une femme, qui ne trouve pas son clitoris, qui tourne tout autour. Si la madame, au lieu de se déplacer comme un petit asticot dans son lit, on dirait un petit peu plus, hop, en espérant... Mais en espérant qu'il tombe dessus comme par magie, tu vois, tu peux prendre un petit moment, alors pas forcément dans le rapport, ça peut être après, tu vois, ça peut être peut-être plus doux à voir après, ou tout simplement prendre la main et montrer, enfin tu vois, c'est pas forcément une communication qui est verbale, ça peut être une communication qui est physique, mais montrer, l'autre peut pas deviner. Et ça, je trouve que c'est aussi un bon truc qui fait le parallèle dans la vie, tu vois, où tu dis c'est décuplé dans notre sexualité. Si vous n'exprimez pas votre besoin, l'autre ne peut pas le deviner. Parce que l'histoire de être un bon coup, ça n'existe pas. C'est juste quelqu'un qui est peut-être plus à l'écoute du corps de l'autre. Oui, il y a des personnes qui sont très bonnes pour voir que si vous bougez un petit peu le bassin sur la gauche, bah peut-être qu'on va aller sur la droite. Mais j'ai envie de te dire, il y a combien de personnes qui sont comme ça ? À mon avis, très peu, et c'est pas grave parce que ça tombe vachement bien parce qu'on a la possibilité de s'exprimer en fait et de parler avec l'autre. Donc, si j'avais deux conseils pour pouvoir communiquer dans sa sexualité, c'est apprendre à se connaître, apprendre à se donner du plaisir pour apprendre à l'autre à nous donner du plaisir. Parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. Dans notre sexualité, je veux dire, t'as un milliard de nanas qui sont absolument pas... On n'utilise plus le terme vaginal clitoridienne parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, la zone... Enfin, tout vient du clitoris, quoi qu'il arrive, interne, externe. Mais t'as peu de nanas qui prennent beaucoup de plaisir en stimulation interne. Il suffit juste que toi ou l'autre personne apporte une stimulation externe. Et ça, si tu le dis pas, l'autre est pas dans ton corps, il peut pas le sentir, donc...
Voilà. J'adore, je trouve ça génial. Merci pour ce partage et ça me fait penser à... J'avais entendu une histoire, en gros, d'un couple où tous les matins, une des personnes du couple, genre, coupe le pain et en fait, en étant hyper gentille, il se dit « Ah bah, je vais donner à ma partenaire cette partie-là parce que pour moi, c'est la meilleure ». Et du coup, il lui donne cette partie-là du pain et lui se garde ce qu'il pense être la moins bonne. Sauf qu'elle, elle reçoit cette partie-là, elle se dit « Oh non, il me donne cette partie-là. Bon, c'est la partie que j'aime le moins. Moi, je préférais l'autre. Mais pour être gentille, elle garde ça. » Et pendant 30 ans, ils font ça sans se dire vraiment les choses jusqu'à un moment donné où ils s'avouent qu'en fait, ils font tous les deux et ils n'ont pas communiqué sur vraiment en fait ce qu'ils aimaient, et du coup ils ont mangé la moins bonne partie du pain selon eux pendant 30 ans, et je trouve ça tellement dommage. Ça pourrait s'éviter à travers juste une petite conversation.
C'est tellement, j'adore cette histoire. Si tu me permets, je crois que je vais la réutiliser
à fond,
parce que c'est trop parlant. Voilà, je pense que juste avec cette histoire, t'expliques pas mal de choses que toi, tu penses faire plaisir. Et puis en fait, non, parce que tu fais quelque chose que t'aimes toi ou quelque chose que tu penses que aime l'autre. Mais en fait, tu n'en sais rien tant que tu n'as pas demandé. Et en fait, ça se répercute souvent, pas que dans la vie sexuelle, mais aussi dans la vie de couple. Si tu apprends à communiquer dans ta vie de couple, tu apprendras à communiquer dans ta vie sexuelle et vice-versa. Tout est une question de se connaître soi d'abord pour après le communiquer à l'autre. Parce qu'on peut pas, on peut pas mettre la pression à l'autre de dire « devine de quoi j'ai besoin, devine quels sont mes besoins, devine à quel endroit j'ai envie d'être touchée ». Si c'est pas, c'est pas possible. Et puis même nous, se mettre à la place de... Tu sais, quand tu as un premier rapport sexuel avec quelqu'un, je reprends encore mon exemple parce que ça me parle là tout de suite. J'ai été avec quelqu'un pendant très longtemps, avec qui j'ai eu des enfants, avec qui, tu vois, tu as une espèce de routine qui s'installe, d'automatisme, tu connais le corps de l'autre parfaitement. La première fois que j'ai recouché avec quelqu'un d'autre, tu as l'impression d'être aux manettes d'une nouvelle voiture, puis tu ne sais même pas où il faut appuyer pour avancer, reculer, passer la seconde. C'est hyper perturbant. Alors, juste poser la question et dire, qu'est-ce que tu aimes ? Est-ce que si je fais... Et ce n'est pas obligé que ce soit une conversation pendant, mais juste, est-ce que ça, c'était bien ? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire autrement ? Et moi, j'ai plutôt aimé ça. Et à ce moment-là, c'était vraiment trop sympa. Rentrer tout de suite en communication, c'est la clé.
C'est la base.
La base.
Exactement. On a parlé pas mal de... du début d'une relation aussi. Tu l'as dit là aussi, tu as un nouveau partenaire. Bon, si au début, voilà, il se touche le lobe de l'oreille ou il te touche le lobe de l'oreille et c'est extraordinaire, t'as plein de désirs et tout, c'est fantastique. Mais si au début, en fait, ça se passe pas bien, s'il y a plein de blocages, comment on fait, en fait ? Parce que je sais qu'il y a un peu ce mythe aussi de « Ah, au début, c'est extraordinaire. » Et parfois, c'est pas le cas, en fait. Au début, c'est pas extraordinaire et il peut y avoir plein de blocages, plein de traumas, plein de peut-être de l'incompatibilité. Qu'est-ce que toi, tu vois dans ton cabinet ? Quelles sont les choses assez récurrentes qui viennent de problèmes de début de relation ?
C'est une trop bonne question. J'aime beaucoup cette question parce qu'effectivement, en fait, tu peux avoir ce désir sans pour autant prendre de plaisir. Parce que les deux peuvent être complètement dissociés. Tu peux avoir très envie de l'autre et au moment où tu le fais, bah, c'est un peu le soufflet qui redescend. Ça ne t'empêche pas de réavoir envie, mais je pense que surtout s'il y a des traumas, un passé de violence sexuelle, quelqu'un qui est hyper pudique, quelqu'un qui a des douleurs, tu vois, il y a plein de choses. Et ça peut être autant chez un homme que chez une femme. Tu vois, tu as des hommes qui ont aussi plein de dysfonctionnements sexuels, autant que les femmes. Et c'est des choses qui sont, dans 95% des cas, nos blocages sexuels sont dus à quelque chose de psychologique ou psychosomatique. C'est très rare que ce soit quelque chose de physique. Tu vois, même le vaginisme, ces choses comme ça, c'est 95% des cas dans notre tête. Ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais c'est véritablement à prendre en compte chez l'autre où il va falloir y aller hyper en douceur. Et c'est là où la communication, elle est importante parce que ça peut prendre du temps de rentrer dans une sexualité qui est chouette. Ça peut prendre du temps de créer de l'intimité. Au début, ça peut être que des câlins, que des bisous, que des caresses, puis des massages, puis il y a les crescendo. Donc là, je te parle d'un cas de vraiment si tu as un souci, entre guillemets, enfin en tout cas une problématique qui t'empêche d'avoir une sexualité épanouie là sur le moment. Le mot d'ordre, ça va être la patience et la douceur. Si t'as pas de traumatisme, que tu kiffes trop quelqu'un, que tout va bien, et que pour autant, quand t'as un rapport sexuel, c'est pas fou, et ben c'est pas grave. Parce que parfois, t'as de la compatibilité sexuelle dès le début, parfois non, mais c'est pas grave parce que ça se construit. Ça veut pas dire que parce que c'est nul au début, ça sera nul toute la vie. Ça peut être très maladroit, tu vois, dans le cadre où justement t'as été avec quelqu'un. T'imagines quelqu'un qui a fait l'amour avec une personne, qui est resté pendant 40 ans avec quelqu'un, puis qui a un rapport sexuel avec quelqu'un d'autre. C'est un monde de nouveautés, quoi. Donc, ça veut pas dire que ça va pas être bien. Ça veut juste dire qu'il faut un petit peu de temps pour, j'ai pris l'exemple de la voiture, apprendre à piloter, à conduire une nouvelle voiture, à se laisser appréhender aussi par l'autre, par son toucher. Et là, on en revient en fait toujours à cette histoire de communication. Mais j'insiste sur le fait, parce que j'aime trop ta question, c'est pas parce que c'est nul au début, nul, encore avec des guillemets, que ça va être nul tout le temps. Parce que cette notion de bon coup, mauvais coup n'existe pas, c'est simplement une question de quoi j'ai besoin pour ressentir du plaisir, de quoi a besoin l'autre pour ressentir du plaisir. Et peut-être que là, on n'y était pas du tout. Moi, en général, j'ai été avec quelqu'un pendant 35 ans, il aimait que je l'embrasse dans le cou en même temps que je dis une connerie, tu vois, que je lui touche les fesses pour qu'il arrive à l'orgasme. Tu refais ça sur quelqu'un d'autre, il s'en fout parce que lui, il a besoin qu'on lui touche l'épaule. Enfin, tu vois, c'est... T'as plein de manières différentes, plein de corps différents, ce qui fait que tu peux avoir un petit moment d'adaptation. Autant que quand tu vas vivre avec quelqu'un en couple, dans une maison, bah, toi, tu fais la vaisselle d'une manière, lui d'une autre, ou elle d'une autre. Bon, bah, tu vois, c'est un temps d'adaptation, en fait. Donc, ça ne veut pas dire que ça va être nul tout le temps ou que c'est un mauvais coup. Au contraire, ça ouvre encore plus la possibilité à la discussion.
J'ai une autre question aussi, toujours par rapport à ces blocages qu'on peut avoir. Quelles sont les croyances qu'on porte dans un couple ? Alors là, peut-être plus parler d'un couple hétérosexuel, parce que je pense que nous, c'est ce qu'on connaît le mieux, mais peut-être que toi, tu as aussi de l'expérience dans ta pratique de sexothérapeute de couple homosexuel. Mais quelles sont les croyances limitantes qu'on peut avoir ? Par exemple, je me doute que c'est l'homme, il doit être viril et il doit pénétrer, et la femme, elle doit être plus dans cette soumission, ou alors elle doit être... Enfin, tu vois, quelles sont ces croyances limitantes qu'on peut avoir dans une sexualité hétérosexuelle ?
Alors, dans une sexualité, et je pense que ça peut être aussi très bien dans une sexualité homosexuelle, dans une sexualité en général. Je pense que les croyances sont beaucoup qu'il y a quelque chose d'assez sale, mm-hmm, derrière le sexe. J'entends beaucoup de « non mais moi, je ne suis pas cette fille-là » ou « je ne ferai jamais ça, ça ne me ressemble pas ». Parce qu'il y a cette notion de saleté, tu sais, de quelque chose de pas propre. Et je pense que c'est quelque chose qu'on nous inculque beaucoup, qui est tout simplement le poids de la religion, du catholicisme. Enfin, tu vois, ça c'est en tout cas en Europe, parce que si tu prends d'autres cultures, il n'y a pas ce truc-là. Je veux dire, nous, en tout cas, pour la plupart d'entre nous, on a été éduqués dans... Une femme doit être douce et un peu soumise, un homme doit être viril et toujours bandé, et ça met la pression à tout le monde, en fait. Donc, je pense que dans ces croyances-là, ce qu'il faut réussir à outrepasser, c'est qu'il n'y a pas de règles, en fait. Tu peux être un homme et aimer être pénétré et pour autant pas être homosexuel parce que ça n'a rien à voir, tu vois. C'est juste une zone de plaisir. Tu peux être une femme et aimer, parfois dominer dans les rapports sexuels. C'est pour moi, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais pour moi, c'est ce schéma-là qu'il faut réussir à... J'aime pas trop ce mot déconstruire. Moi, je n'ai pas envie de déconstruire quelque chose, tu vois, mais peut-être changer, modifier ce truc de pénétrant, pénétré, qui doit l'être, qui doit pas l'être, qui doit être soumis, pas soumis. C'est plus ça de se laisser aller complètement à son désir. Est-ce que ça répond à ta question ou est-ce que je peux aller...
Est-ce que je peux aller aux toilettes? Parce que j'en peux plus.
Un peu plus loin?
Non, ça a carrément ça a carrément répondu à ma question. Et en fait, ce dont j'ai fait l'expérience, et là où je me questionne aussi, et ça fait, je pense... écho avec, par exemple, j'ai un couple d'amis homosexuels. Et moi, dans ma sexualité, par exemple, je me suis rendu compte que quand je suis dans un couple hétérosexuel, je peux devenir, entre guillemets, alors, mon Dieu, je ne sais pas si ça va être publié ou pas, je te le dis quand même, mais j'ai l'impression que je peux devenir un homme, en fait. Ouais. Et j'ai l'impression que mon partenaire, donc un homme, peut devenir... énormément dans sa féminité et que du coup comme si les rôles s'inversent en fait si on se met pas de barrière, comme s'il y avait pas en fait il y avait plus cette notion de toi t'es un homme, toi, moi je suis une femme, où en fait c'est juste on incarne des choses, voilà, où il y a plus de notion de toi t'es ci, toi t'es ça. Et je pense, alors je suis pas sûre, mais il me semble que dans un couple homosexuel, une des questions qui reviennent souvent pour les homosexuels, c'est « Ah, mais alors qui fait l'homme, qui fait la femme ?» Et en fait, je sais, parce que j'ai des amis homos, elles me disent « Mais en fait, c'est nul ces questions, parce qu'en en fait, il n'y a pas cette notion-là. » Et je pense que dans le couple homosexuel, il y a aussi à un moment donné, c'est toi qui incarnes plus ton côté féminin. À un moment donné, du coup, c'est moi le côté plus masculin. Et en fait, ça change. Il n'y a pas un moment donné, je suis attachée à quelque chose parce que la société m'a dit que je devais être comme ça dans ce couple, dans l'intimité. Tu vois ce que je veux dire?
C'est exactement ça. Mais je te dis, ça m'a donné des frissons. Et en fait, c'est là où on se rend compte que, en fait, que tu sois hétérosexuel, homosexuel, il n'y a pas de différence. Mais les gens ont besoin de cette binarité de qui fait l'homme, qui fait la femme. Mais en fait, la question n'est pas du tout là. C'est quelle est ton énergie à ce moment-là? Tu peux avoir une énergie vachement plus masculine en étant une nana à un moment donné parce que ce jour-là, tu as la pêche, parce que le contexte de ton rapport sexuel s'y prête, parce que tu as... Et être avec un mec qui effectivement exprime à fond sa féminité à ce moment-là. Et moi, je trouve ça mais une beauté, tu vois, de sentir que quelqu'un se laisse aller. Quand toi, tu prends un peu les rênes et vice-versa. Et en fait, pour moi, ce que tu exprimes là, ça rééquilibre tout. Et à mon sens, hein. Mais ça rééquilibre tout dans le sens où il ne devrait pas avoir ce truc-là dans la sexualité de qui fait l'homme, qui fait la femme, même entre un homme et une femme. Tu vois, ça devrait être juste une question d'énergie, encore une fois, à mon sens. Mais on nous a éduqués à ce truc de l'homme domine la relation sexuelle, la femme reçoit. Donc, c'est hyper difficile quand tu sors de ce carcan-là, parfois de se sentir légitime ou d'avoir l'impression de faire un truc un peu bizarre, alors que non, tu l'as juste exprimé à ce moment-là, ton énergie plus masculine ou plus féminine. Et puis qu'en final, c'est de la bombe et je trouve que ça équilibre tellement les rapports sexuels de chacun son tour. Au vu de la situation, au vu du moment, au vu du... Enfin, je veux dire, quand tu as une journée un peu difficile, que t'as pas la méga pêche, que t'es un peu chouin-chouin, que machin, et que tu fais l'amour, bah, moi, perso, j'ai envie de me laisser porter, tu vois, de me laisser câliner. J'imagine que c'est quand même pour pas mal de personnes la même chose, alors que parfois j'ai la pêche et que j'ai trop envie de faire plaisir à l'autre et puis tu sais, prendre les manettes. Et puis il faut se laisser en fait cette chance de pouvoir vivre tout ça. Et on en revient au truc du début de bah, pour moi, ça c'est une sexualité épanouie. Et c'est un point hyper important où on se rend compte qu'en fait, homme, femme, 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 homme, homme, c'est juste une question d'énergie. Et c'est ça qui me passionne dans la sexo, c'est de se dire, wow, en fait, c'est au-delà de notre corps, ça nous permet de nous exprimer du plus profond de nous, en fait. On sort le truc le plus intime qu'on peut et on l'offre à l'autre, quoi. Et ça... Et je trouve ça trop beau, en fait. Donc, peu importe qui est pénétré, qui est pénétrant, qui fait quoi, qui lèche où, il manque, tu passes un moment qui te fait kiffer, quoi.
Ouais, c'est clair. Et tu as parlé d'un truc aussi où, voilà, dépendamment de ce que tu vis dans ta journée, tu vas être différente dans l'intimité. Dans quelle mesure est-ce que c'est important, du coup, d'être quand même bien dans sa vie? Parce que si on passe une mauvaise journée tous les jours et qu'en fait, on n'a plus d'énergie parce qu'on rentre et en fait, on s'est fait vampiriser notre énergie toute la journée dans un job qu'on n'aimait pas ou avec des collègues qu'on ne kiffait pas dans un environnement hyper malsain et du coup, on rentre chez soi et qu'on n'a plus d'énergie à donner à notre partenaire ni à notre relation et qu'au final, on laisse ça un peu aller. Est-ce que c'est important d'être épanoui dans sa vie quand même au quotidien pour rentrer le soir et pouvoir donner?
Bien sûr, c'est même une des composants. Vu qu'on n'est pas sur un besoin vital, si tu ne vas pas bien, c'est pas ça qui va ressortir. Ta libido, elle est très fluctuante par rapport à ton état émotionnel, ta fatigue, ton épanouissement, ce que tu vis dans ta vie. Enfin, une dépression. Ta libido, elle se fait la malle, quoi. Parce que c'est hormonalement, il y a quelque chose qui ne se passe plus, et puis que ton corps met son énergie à aller bien. Si tu as un boulot qui ne te plaît pas, ou ça te prend toute ton énergie, forcément, tu rentres, tu n'as qu'une envie, c'est d'aller te coucher. C'est pour ça que là, c'est important encore plus de créer ces moments de complicité, ces moments de trucs à deux, mais sans qu'il y ait nécessairement ce rapport sexuel, parce que tu dis « non, je suis déjà crevée, tu vois, j'ai juste besoin de toi ». Peut-être que ça arrive à ça, peut-être pas, mais c'est vrai, les deux sont liés. Les deux sont liés, il y a aucun doute. Tu vois bien, en été, là, on arrive dans un moment où... En général, on est quand même, on a plus la pêche, il y a plus de lumière, il y a plus de soleil, il y a plus de chaleur, on est moins habillé. Pour beaucoup d'entre nous, ça fait augmenter la libido. Donc oui, ta vie perso, ta vie pro va influencer forcément sur ta libido. Le fait d'avoir des enfants va influencer sur ta libido. Tu as des enfants en bas âge. Bon, c'est pas le moment de ta vie forcément où tu as une sexualité de fou, mais au final, c'est pas grave. Je pense qu'il faut juste vraiment le pointer et y faire attention parce qu'effectivement, si tu n'as pas ce moment de là avec ton partenaire ou ta partenaire, ça peut faire que bah, petit à petit, ça va pas top top quoi.
Youhou! Long interview, j'avais trop de questions à te poser. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de partager aux personnes qui nous écoutent?
Écoute, moi je suis trop heureuse de notre conversation. J'ai eu des frissons environ 4 fois pendant... je suis trop heureuse parce qu'on a abordé, pour moi, le plus important... que ce soit la sexualité physique, que ce soit la sexualité énergétique. Enfin, il me semble qu'on a fait quand même le tour de pas mal de choses. Donc, moi, j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent, kiffez votre vie. Et si jamais vous sentez que c'est quelque chose qui est pas ou peu accessible pour vous, faites-vous aider. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de mal à se faire aider dans sa sexualité. Si vous avez des love shops ou des choses comme ça autour de chez vous, je sais que moi, il y en a un, tu vois, qui vient d'ouvrir à Châteauroux. La nana est d'une gentillesse incroyable. Allez poser des questions, qu'on vous conseille sur ce que vous pouvez utiliser pour trouver un chemin pour votre plaisir. Enfin, voilà. Poser des questions, il n'y a pas de honte à avoir. Quoi.
Merci beaucoup, Élodie.
De rien, c'était trop génial. Merci de m'avoir invitée.
How was that, my friend? J'espère que cet épisode vous a plu. J'ai tellement aimé notre conversation avec Élodie et vraiment pris conscience de plein de choses. Par exemple, j'ai adoré qu'elle mette la lumière sur l'importance de la communication, mais aussi l'importance de mettre du fun et de la créativité dans notre vie intime. J'adorerais savoir ce que vous avez pensé de l'épisode. N'hésitez pas à venir me le dire sous le post de l'épisode de la semaine sur Instagram. Et puis, où que vous soyez, j'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous. Je vous envoie plein de super vibes pour votre journée, soirée, semaine. You rock. See you next week.